Silcast présente le coin pop culture, thème du jour animé et manga, avec Kenji. Bonne écoute.
Aujourd'hui, on parle d'un anniversaire qui mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il dit beaucoup sur comment une œuvre populaire devient un substrat culturel. Tsuburaya Productions a annoncé, via Anime News Network, un documentaire pour les 60 ans d'Ultraman, intitulé The Origin of Ultraman, qui sortira au cinéma le 3 juillet. Et avant même de parler du contenu, le casting des intervenants raconte déjà l'histoire à lui seul. Vous avez du Guillermo del Toro, du Hideaki Anno, du Hideo Kojima, du Nicholas Winding Refn, Shinji Higuchi, Takashi Shimizu et Hirokazu Koreeda, qui n'est pas juste interviewé mais crédité à la planification du projet. Koreeda, le mec des affaires de famille et de Erdol, qui planifie un docu sur Ultraman. Ça pose le ton tout de suite, on n'est pas dans le making-of nostalgique pour fans. On est dans la reconnaissance d'Ultraman comme objet patrimonial du cinéma japonais, au même titre que Kurosawa ou Ozu, juste dans un autre couloir. Et c'est là que je trouve l'angle intéressant. Le tokusatsu, ce cinéma à effet pratique avec les suites mations, les maquettes miniatures, les explosions à l'ancienne, a longtemps été regardé un peu de haut, y compris au Japon. Trop kitsch, trop pour enfants, pas du vrai cinéma. Sauf que sans Eiji Tsuburaya, qui était déjà le superviseur effets spéciaux du Godzilla Donda en 1954, vous n'avez pas Anno qui fait Shin Godzilla et Shin Ultraman. Vous n'avez pas Higuchi non plus. Vous n'avez pas la grammaire visuelle d'Evangelion, qui est en gros du tokusatsu remixé en animation. Et plus loin encore, vous n'avez probablement pas Pacific Rim de Del Toro, qui est une lettre d'amour explicite à ce langage-là. Ce que ce documentaire va faire, c'est rendre cette dette lisible. Anno l'a déjà fait, à sa manière, avec son propre docu sur Tsuburaya il y a quelques années, et avec le projet Japan Special Effects qu'il porte depuis longtemps via son musée et ses expos. Là, on est dans la continuité de ce travail-là, préservé, archivé, légitimé. Le fait qu'on annonce des images d'archives d'Eiji Tsuburaya en train de diriger le plateau du tout premier Ultraman de 1966, c'est exactement ça. C'est le geste d'une cinémathèque qui dit « ce gars-là, dirigeait des hommes en costume devant des maquettes de Tokyo. Et c'était de la mise en scène au sens le plus pur du terme. Pourquoi Del Toro et Refn dans le casting d'intervenants et pas juste des Japonais? Parce que c'est aussi une opération de soft power assumée. Ultraman, c'est une des premières franchises japonaises à avoir vraiment voyagé, bien avant Pokémon ou Dragon Ball. En Amérique latine, en Thaïlande, Ultraman, c'est un héros culturel local presque. Et faire dire ça par Del Toro, qui a grandi avec au Mexique, c'est plus puissant que n'importe quel argumentaire de Tsuburaya en interne. C'est la stratégie de Studio Ghibli avec le Ghibli Museum, ou de Toei avec ses rétrospectives, transformer le catalogue en patrimoine officiel. Et ça, ça résonne bizarrement bien avec l'autre truc que j'ai lu cette semaine sur Anne, la review des volumes 5 à 8 de Kaiju Girl Caramelize de Spika Aoki. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga où une lycéenne se transforme en kaiju géant style Godzilla quand elle est gênée par son crush. La métaphore puberté est évidente au début, sauf que dans ces volumes-là, twist, elle apprend qu'elle est littéralement née d'un œuf de kaiju et que sa forme humaine est l'illusion. Ce qui retourne complètement la lecture de l'œuvre. La critique de Annen fait un parallèle avec Dorian Gray, que je trouve très juste. Ici, l'image monstrueuse n'est pas le reflet du mal caché. C'est le contraire. C'est dans la forme kaiju qu'on voit les vrais sentiments, les petits cœurs sur le corps, l'équivalent de la fille qui griffonne des cœurs sur son cahier. Et ce que je veux dire en mettant les deux articles côte à côte, c'est qu'on est en train d'assister à une maturation du discours sur le kaiju comme forme. Pendant des décennies, le kaiju c'était soit la métaphore politique sérieuse, Godzilla 54 et le traumatisme nucléaire, soit le divertissement bruyant pour gamins, à savoir 90% du reste. Ultraman était coincé dans la deuxième case dans la perception générale. Et là, en 2026, on a en parallèle un manga qui utilise le kaiju comme métaphore d'identité queer, adolescente, très fine, et un docu prestigieux, planifié par un cinéaste Palme d'Or, sur les origines d'Ultraman. Le médium est en train de récupérer une dignité critique qu'il n'avait jamais vraiment eue. Vite fait, sur deux épisodiques de la semaine, parce que ça vaut le coup. Akane Banashi épisode 6 introduit Koguma, le rival qui maîtrise pas la performance pure, mais la recherche historique du Rakugo. Et la review d'En met le doigt sur un truc que peu de séries sur un art traditionnel arrivent à faire. Montrer que le Rakugo c'est aussi du period piece, que la matérialité des objets, des dés en os de l'époque Edo plutôt qu'en plastique, change la façon dont l'histoire résonne. C'est un épisode qui élargit la définition du talent. Akane est douée pour interpréter, mais l'interprétation sans le substrat historique, c'est juste du mimétisme. Très joli geste d'écriture. Ça rappelle un peu la structure d'Ikaru no Go, où le héros doit apprendre que la technique pure ne suffit pas. Et Witch Hat Atelier épisode 7, qu'on commence à vraiment voir ce que Kamome Shirahama construit dans son manga depuis le début. Le titre c'est « Pour qui est la magie ?» Et Agot, le personnage difficile à aimer, commence à craquer. Ce que je trouve fort dans cette adaptation, c'est qu'elle prend son temps pour faire comprendre que la dureté d'Agot n'est pas du shonen edge gratuit, c'est une réponse de trauma. Et le contraste est posé proprement. Coco transforme sa douleur en moteur vers l'avant. Agot s'enroule autour de la sienne comme une couverture inversée. C'est de la caractérisation d'un niveau qu'on voit rarement dans le fantasy young adult. Ce qu'il faut retenir, le docu Ultraman du 3 juillet, c'est pas juste un anniversaire, c'est un moment où une institution dit « Voilà, on était du cinéma depuis le début, regardez qu'il confirme ». Et si vous voulez voir ce que la culture kaiju peut faire en 2026 quand on la prend au sérieux, lisez Kaiju Girl Caramelize. Les deux dialogues sans le savoir. Côté hebdo, Akane Banashi reste la série la mieux écrite de la saison sur le thème du devenir artiste. Et Witch Hat Atelier continue d'être l'adaptation la plus soignée qu'on ait depuis Frieren. Bonne semaine de visionnage.